vétéran.
Fait que c'est qui finalement?
C'est le vétéran, le numéro 1.
C'est pas un vrai vétéran. Si t'as suivi, là, c'était,
ben oui, mais là, j'ai suivi ton. Je l'identifie comme ça.
Tu vas faire le saut, il arrivera pas en marchette. Là. avec ses médailles de militaire. Là. Non, c'est pas...
Je vais faire une conversation de groupe, là. Battez-vous.
Okay? Hey, ça, c'est une maudite bonne idée. On va prendre le survivant. Ouais, c'est pas compliqué,
c'est bon,
là, oui. Jusqu'à la mort. Organisez-vous. Wow. Véro, les autres nouvelles.
Ce sera lundi, le 26 février, que la commission Galland va remettre son rapport. En fait, le gouvernement va le recevoir 3 jours auparavant. On l'avait déjà repoussé à 2 reprises, mais il y avait trop de témoins à voir, trop de matériel à analyser pour être capable de le remettre plus tôt. Fait que le commissaire Galland, qui est en principe supposé donner les causes derrière le fameux scandale de Saclic, on sait à peu près ce qui s'est passé, là. En fait, on s'en est rendu compte quand le lancement a été effectué, ça a été catastrophique, puis en fouillant un peu, c'est là qu'on a vu que les dépenses, qui étaient déjà estimées quand même un bon montant, 638 millions, dépassaient maintenant le 1 point quelques milliards de dollars selon la vérificatrice générale. On va voir aussi qui sera blâmé. Puis on avait su, c'est quoi, c'est avant les fêtes que la ministre Geneviève Guilbeault avait reçu un préavis de mauvaise conduite de la part de la commission. Ça, c'est l'équivalent de dire « Hey, vous allez vous faire pointer du doigt dans le rapport à cause de certaines décisions que vous avez prises et que votre entourage a pris parce qu'elle ne sera pas la seule à se retrouver dans ce... j'allais dire ce pétrin-là, dans cette situation-là. Puis quand on envoie le préavis, c'est que les gens peuvent être en mesure de se défendre, entre guillemets, de ce qui se retrouve à l'intérieur. Fait que ce serait intéressant de voir la commission qui a duré 75 jours sur 6 mois à peu près avec 131 témoins, des preuves monumentales, 400 000 courriels, 300 000 documents qui ont dû être analysés par la commission pour en venir à différentes conclusions.
Beaucoup, hein?
C'est quand même du stock. Puis il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait donner des punchs avant que le rapport sorte. C'est le nom de Karl Malenfant. Karl Malenfant, on en a parlé, il a témoigné à la commission Galland, mais son nom a été cité à plusieurs reprises. Il était comme l'espèce de grand Manitou, si on veut, de ce projet-là.
Un grand Manitou d'un projet technologique, ouais, qui utilise LinkedIn quand vient le temps de s'expliquer.
Lui a décidé qu'il donnait une conférence de presse pas plus tard que ce mercredi en compagnie de son avocat, maître Jean-François Bertrand, pour donner son côté de l'histoire, le dépôt de sa déclaration sous serment et des révélations inédites. Comme si, mettons, c'était le... je sais pas moi, le Watergate ou quelque
ça
chose
fait,
du genre. Là.
Premièrement, le gars se donne vraiment une importance qu'il n'a pas auprès du public. Puis deuxièmement, d'essayer de changer le narratif juste avant que le rapport soit déposé, ça fait un petit peu damage control de panique.
Je vous lis un extrait...
Même Geneviève Guilbeault fait pas ça.
Je vous lis un extrait du communiqué qui a été envoyé ce matin pour justement aviser les médias de la tenue de cette rencontre-là. De retour après sa période de convalescence, M. Malenfant souhaite faire le point sur le dossier Saclic. Alors que le public n'a eu accès jusqu'ici qu'il y a des fragments d'informations ou à des réponses circonscrites par le cadre strict des interrogatoires, le moment est venu de présenter l'histoire dans son intégralité. Fait que on aura cet épisode-là dans 2 jours. Reste à voir si ce sera un peu pétard mouillé ou s'il y a des trucs intéressants.
Est-ce que tu as fait ton gagnant pour le laser tag? C'est fait, hein?
Ben,
c'est
oui.
Vraiment malheureux.
Ah, arrête! Ouais, c'est parce que, je sais, je l'ai vu, c'est hilarant.
Oui, t'es comprends ces jokes-là à
ben maintenant, oui.
Véro Mathieu nous a écrit pour faire partie de notre équipe de laser tag. Il écrit « Bonjour, j'ai un surplus de poids, mais je suis excellent au laser tag. On me surnomme Boba Fett.
J'ai tellement pensé à toi, Audrey, hier, quand il y a eu la pub pendant le Super Bowl sur le nouveau Mandalorian. Là. Puis, tu l'as-tu vu, Denis?
Oui.
Tu sais, tes bestioles que tu mites qui font un drôle de bruit quand...
Ouais,
exactement.
Là. Il
faisait comme si c'était les chevaux de Budweiser qui arrivaient, mais finalement, c'était un attelage avec ces bestioles-là qui traînaient le Mandalorian vers Grogu.
Oh, le cheval avec le petit oiseau. Le cheval avec le petit canard. Le cheval Budweiser, vous l'avez pas vu?
Ah oui, je l'ai vu, moi.
Le cheval, il grandit,
oui.
Puis le petit canard, il grandit, puis ça devient l'aigle.
Oui,
oui, c'est malade. Écoute, moi, c'est ma pub.
Un canard qui se transforme en aigle.
Belle.
Hein?
Ben, non, mais il est comme...
On pense que c'est un canard parce qu'il est tout petit.
Il est comme en train de mourir.
Un petit oisillon.
Ouais,
oui.
Ouais.
Puis là, le cheval Bud, tu sais, le protège de la pluie. Oh. Puis il grandit, puis il est sur son dos. Puis
oh, c'est cute.
Il apprend à voler, puis le maner, tu comprends. Ah, oh, c'est vraiment adorable.
Ouais. America! C'était de toute beauté.
Ah, ouais, il y en a vraiment eu des belles. Il
manquait rien qu'un chat.
Toi, tu vas finir tout ça avec des chats.
Es-tu... Ah, peut-être.
Non! Il
va être dans les nouvelles. Un ancien animateur de Radio du Québec s'est vu donner une amende pour insalubrité parce qu'il y a trop de minous chez eux. Mais il était tout cute!
Je serai bientôt une folle au chat.
François Bonnardel qui appuie Christine Fréchette dans la course à la chefferie de la CAQ alors que Bernard Drainville se targuait d'être dans le courant Adéquis. Le dernier Adéquis qui restait au sein de la CAQ lui a décidé qui préférait l'autre bord.
C'est pas grave. La CAQ est habituée au changement de narratif.
Beaucoup. C'est leur pain et leur beurre depuis des années. Le ministre des Transports, Jonathan Julien, qui a fait ses mises à jour sur l'électrification du transport en commun, le retour de subventions pour les autobus hybrides, ce qui a été salué, entre autres, par le RTC. On s'est déjà parlé de la suspension de ravitaillement en kérosène du côté de Cuba, fait que, entre autres, Air Canada, qui a annoncé qu'ils allaient annuler certains vols. Je veux terminer en vous parlant d'une histoire. Avez-vous entendu parler de l'animatrice du Tout des shows dont la mère a été kidnappée il y a une semaine de ça?
Hey, j'ai vu une notif passer, j'ai pas lu l'histoire au complet, par exemple.
Savannah Guthrie, c'est un visage qui est très connu. Tout des shows s'est présenté à NBC. NBC, c'est eux qui font la couverture des Jeux olympiques. C'est elle qui devait aller du côté de l'Italie pour cette couverture-là. Et sa mère de 84 ans a été kidnappée il y a plus d'une semaine de ça. Et elle aurait été enlevée chez elle, selon les autorités. Elle demeure à Tucson, en Arizona, dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Tout laisse penser que c'est vraiment des gens qui se sont présentés sur place. Il y a du sang qui avait été retrouvé sur le porche de la maison, que c'est bel et bien celui de sa mère. Là. L'ADN a été analysé.
Mon Dieu.
Caméra de la porte d'entrée avait été débranchée. Les caméras de surveillance du voisinage...
Mais c'est relié à quoi?
Il y a une demande de rançon qui aurait été envoyée, puis ça a comme été difficile de départager le vrai du faux. Mais elle a carrément dit au ravisseur potentiel de sa mère, « Hey, on va payer. C'est quoi votre demande? On va payer si on la récupère en bonne santé. » Mais c'est une histoire qui est absolument hallucinante.
Mais pourquoi elle? Puis pourquoi comme ça?
On sait comme rien par rapport à...
Documentaire Netflix dans 2 ans.
Mais idéalement, ça serait le fun qu'elle retrouve vivante avant, là. Ça va être NBC qui va le présenter. Je le confirme qu'ils vont faire bien des émissions spéciales par rapport à ça. Mais c'est hyper, hyper nébuleux. Elle avait une application mobile pour son suivi cardiaque. Ça a été déconnecté de l'appareil. Fait que tu vois que tout a été vraiment, vraiment calculé. Il y avait la fameuse demande de rançon qui aurait été faite, qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le montant est à verser avant 17 heures aujourd'hui. C'est pour ça que la famille a fait une vidéo qui est quand même assez touchante en disant « Hey, on est prêt à payer, donnez-nous juste les informations puis redonnez-nous notre mère. » Tu sais, parce que c'est terrorisant comme histoire.
Ça n'a pris que 17 secondes en début de deuxième période pour que les Canadiennes inscrivent un 5e but. C'est maintenant 5-0 pour Team Canada féminine face à l'équipe de Tchéquie. Et je veux rajouter une petite nouvelle supplémentaire. Vous avez vu peut-être les arbres du spectacle de la mi-temps.
Les foin-foin marchands.
Qui étaient en fait des figurants.
Ouais.
Hein? C'est le fun. Tu peux dire, hey, moi j'ai été à la mi-temps du Super Bowl. Ah ouais, t'étais quoi? J'étais l'arbre numéro 42.
Comme quand t'étais jeune au primaire.
Oui.
Mais on a eu des informations sur les gens qui ont fait la job d'arbre à la mi-temps du Super Bowl.
Il y en a plein qui ont documenté ça sur leurs Instagram et leurs TikTok.
Donc, pour le show de Bad Bunny, si tu incarnais un arbre qui marche, tu as été payé $18.70 pour 70 heures de travail, un total de $1,309 qui inclut les 8 jours de répétition et la journée du match.
C'est pas beaucoup, par exemple?
Non, c'est pas beaucoup. Ça a été intéressant aussi de voir la danseuse du Québec.
Oui.
Elle danse avec les grandes stars partout à travers le monde.
Elle a fait occupation double, ça fait là.
Elle racontait que ça a tout été fait en secret. Quand tu rentrais dans la place où tu préparais le show de la mi-temps, dès le mois de janvier, tu n'avais pas le droit de rentrer avec ton cellulaire parce que ça ne prenait pas de photos, pas d'images et ainsi de suite. Puis même eux autres l'ont su à la dernière minute qui allait faire quoi.
Avec Lady Gaga et Ricky Martin.
Elle l'a entendu dans ses écouteurs, dans les derniers instants de la pratique de la chorégraphie. Ah! Lady Gaga va avoir un spot. Ah! Ricky Martin va avoir un spot. Donc, même quand tu fais partie de l'équipe rapprochée de chorégraphie, il y a des choses qui n'étaient pas publiques. Là.
Combien Bad Bunny a reçu, lui?
Pas $18.70.
Zéro.
Mais non, mais
les artistes
c'est
ne sont
gratis,
pas rémunérés.
Ah, c'est vrai.
La NFL couvre les coûts de production. On dit que les artistes reçoivent une rémunération minimale qui est souvent l'équivalent de ce que le syndicat demande. Fait que c'est entre 1 000 et 2 000 par journée de répétition. Mm. Mais tu sais, lui, aujourd'hui, c'est l'exposure qu'il a, comme s'il en avait besoin. Mais il y aurait une annonce qu'il ferait bientôt parce que je pense qu'il y a éliminer certains posts sur son Instagram.
En fait, il a retiré toutes ses publications de son Instagram, sa photo de profil aussi. Il a annulé ses shows aux États-Unis. Il a fait le Super Bowl parce que pour lui, c'était une belle plateforme pour passer un peu son message aussi puis bon, ce qu'il voulait promouvoir à travers sa performance. Là.
Pourquoi? Hein? Ice l'a pogné en sortant du stade?
Non, c'est un citoyen américain.
Ah, oh, il en pogne, il en tire même d'en face.
C'est vrai qu'ils n'ont pas tant de jugement, mais ça pourrait peut-être être une annonce qui va venir pour ce qui est de Bad Bunny.
Fascinant de voir le nombre d'Américains qui ne sont pas au courant que Puerto Rico est un territoire américain.
Je sais.
Ça fait partie des choses qui circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment vous avez trouvé ça, le spectacle de la mi-temps hier, vu qu'on en jase?
C'est pas mon genre de musique. À un certain moment donné, j'ai trouvé que c'était trop tout le temps la même chose, mais j'ai trouvé ça quand même magnifique. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de front là-dedans, puis c'était surtout, tu sais, je vous disais, moi, tant que c'était un party, puis ça avait l'air d'être un party.
Ouais.
Fait que, tu sais, moi, j'avais moins le goût de me lever, mais le show est pas juste fait pour moi, là.
Mais tu sais, moi, j'ai trouvé... C'est comme dur à dire parce que, tu sais, nous autres, on parle beaucoup de musique, on décortique un peu les performances, on aime quand il y a un band, on aime quand c'est...
D'habitude, oui.
Oui, c'est ça, habituellement. Puis, je veux dire, visuellement, tu vois que c'est une prod incroyable. Là. Je veux dire, les jeux de caméra, les différentes scènes, c'était écœurant ce que ça a donné. Oh, oui, c'était très, très fluide. Mais tu sais, en soi, mettons qu'on parle juste de l'artiste, de sa performance à lui... Ben, je veux dire...
Moi, je l'ai préféré dans Happy Gilmore.
Non, mais tu sais, dans le sens qu'il chante dans sa langue, la musique est bien bonne pour les gens qui aiment ce type de musique-là, puis c'est bien correct, mais pour moi, il n'y avait pas une prestance en soi. C'est pas lui qui faisait le show plus que tout ce qu'il y avait autour de lui. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça l'affaire. On en parle, mais en même temps, gars, c'est une mi-temps, c'est divertissant, c'était pas mauvais au total tout, puis c'était super charmant, la façon dont il a amené les choses. La fin était super émotive pour beaucoup de gens, sur le clin d'œil à... Ben,
toutes les pays qui font partie de l'Amérique. En fait,
c'est quoi ça. L'Amérique?
Ouais. C'est pas juste les États-Unis, c'est pas les Américains.
C'est pas juste Donald Trump.
Non, exact.
L'amour sera toujours plus fort que la haine. Ouais. C'était beaucoup de beaux messages. Là.
Moi, c'est weird, puis moi, j'en suis un qui est inquiet par le contexte politique actuel, puis j'ai pas été capable d'évaluer cette performance-là avec mes paramètres habituels. Tu sais, d'habitude, je vais vous parler de musique, je vais vous parler de chorégraphie. Là, je vais juste dire, c'est la performance que l'Amérique avait besoin.
Ouais,
dans le timing, là, je trouve qu'on avait besoin de bonheur, on avait besoin de montrer la diversité, on avait besoin d'amour, on avait besoin de joie de vivre.
Puis lui a l'air d'un sacré bon Jack. Là. Peut-être que ça aide au fait que tout le monde aujourd'hui est comme, bon, c'était peut-être pas mon genre, mais c'était beau.
C'est la deuxième fois que Bad Bunny m'impressionne. La première fois, c'est quand il a fait un combat de lutte à la WWE à Puerto Rico contre Damien Priest, qui est un lutteur professionnel.
Je savais même pas qu'il luttait.
Mais Bad Bunny avait pris son rôle à cœur et avait livré tout un match. C'est un tripeux de lutte depuis son enfance. Puis quand il a su qu'il y avait un gala du côté de Puerto Rico, ben il a approché la WWE puis il a dit « Écoute, je serais intéressé à embarquer là-dedans. » Puis je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait entendre son entrée dans le ring avec le monde qui était complètement fou. Puis moi, le spectacle qu'il avait réussi à livrer dans une discipline qui n'est pas la sienne, moi, ça m'impressionne toujours de voir des gens qui sont capables de faire le millage. Jelly Roll! Saviez-vous pourquoi Jelly Roll a perdu tout ce poids-là? C'était pour faire un match de lutte à la WWE. On le voit dans un épisode de la série Unreal.
Mon Dieu.
Où il parle avec des gens de la WWE, puis il dit... il venait de faire un spot sur le ring, puis ça a pris deux lutteurs pour le lever. Parce qu'il il était tombé assis puis il n'était pas capable de se relever tout seul. Puis il a trouvé ça gênant. Puis backstage, il a dit à Triple H, qui est le boss de la WWE, « Dans un an, je reviens, je suis en forme puis j'aimerais ça faire un combo. » Eux autres, ils ont pris ça à légère. Ben oui. Là, tu tripes, t'as eu du fun sur le ring puis tout ça.
Mais ça a été son déclencheur.
Vous avez vu Jelly Roll perdre du poids à une vitesse hallucinante, puis il a fait son combat, puis il a donné une Moses de belle performance. Si ça vous intéresse, c'est dans la deuxième saison de Unreal, qui est une série sur les coulisses de la WWE. C'est du côté de Netflix. Pour revenir à Bad Bunny, c'était facile d'entrer dans une guerre de mots avec le président Trump, mais il l'a pas juste écrit dans le stade que l'amour est plus fort que la haine. Je trouve qu'il nous l'a montrer. Puis Véro va comprendre, puis ceux qui ont vu le film aussi, le feeling que j'ai eu en regardant la mi-temps d'hier, c'est le même feeling que j'ai eu en regardant la séquence musicale du film Sinners.
Ah oui, 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 oui.
C'est pas ma culture, mais j'aime ça voir une culture qui n'est pas la mienne présenté avec passion, avec amour, avec puis c'est un peu le feeling que j'ai eu. Puis il y a plein d'images backstage qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier de Bad Bunny qui danse en arrière de la maison pendant que Lady Gaga est en train de faire sa tournée.
C'est le même setup qu'il y avait pour sa tournée. Puis on avait vu certaines célébrités être là, fait qu'on avait comme repris le clin d'œil à ce moment-là. J'avais trouvé ça nice.
Puis des hugs aussi qu'il a fait après la performance avec Ricky Martin et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça...
Bienveillant?
Bienveillant, oui. Je pense que c'est le bon mot. Puis c'est encore plus bienveillant en voyant la réaction complètement stupide et exagérée du président des États-Unis qui dit que c'est... Tu sais, puis il dit que c'est la pire performance de l'histoire, puis ainsi de suite. Puis tu vois que c'est fait juste avec de la malhonnêteté. J'en parlais avec mes gars. Tu sais, on a regardé le spectacle de la mi-temps hier, puis quand on a vu le tweet passer, je leur ai posé la question. J'ai dit, je sais pas si vous avez aimé ça, mais c'est-tu le pire spectacle que vous avez vu de votre vie? Tu sais, c'est complètement ridicule.
Puis là, c'est-tu quoi? D'habitude, tu sais, quand il envoie un message comme celui-là, il prend le haut du pavé. Mais là, il y a tellement... de publications sur l'envers du décor, sur les petites histoires à côté, qui on dirait que ça prend toute la place.
Oh, on n'a même pas parlé
de le commentaire est marginal.
Puis, je pense qu'une performance comme celle-là aurait passé dans le beurre en 2012 ou en 2013.
Absolument.
Je pense que le contexte politique actuel fait en sorte que dans 40 ans, je suis convaincu de ça, dans 40 ans, c'est encore top 5 des plus grandes performances de l'histoire du Super Bowl. C'est une performance qui est condamnée à être dans le top 5 à cause du contexte politique puis de la façon que ça a été fait autour.
Puis on dirait que Bad Bunny a accepté de la faire au bout du compte un peu pour ça aussi. T'sais.
Probablement, mais il y a un choix artistique là-dedans de dire on va montrer ce qu'on est puis on tombera pas dans une guerre de mots. Moi, je m'attendais à un moment donné à ce que t'aies des agents du ICE qui arrivent, là, puis qu'il y ait une chorégraphie avec ça. Puis c'est pas là qu'il est allé. Puis il avait pas besoin d'aller là. Il a été l'adulte. Il a été le gars le plus brillant. Il a été plus brillant que le président des États-Unis. Bravo à Bad Bunny. 16h16, on fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. Gravel. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Les journées ont recommencé à s'étirer. Fait du bien, moins 11 degrés à Québec, mais moins 20 avec les vents. Quelques nuages ce soir et cette nuit, minimum de moins 16 degrés. Demain, encore du soleil. Ça sent nuage tard en fin de journée, un maximum de moins 7. On prévoit de la neige intermittente pour la journée de mercredi avec un maximum de moins 7. Et au niveau des températures pour le reste de la semaine, on reste dans le plus doux. Jeudi, moins 6, vendredi, moins 8. Et samedi et dimanche, on prévoit des maximums de moins 4 et de moins 2 degrés. Un peu de chaleur pour la Saint-Valentin ferait du bien. Pour nous rejoindre en tout temps, les textos, ça va bien, ça va vite. 418-971-1021. On a le Messenger de Boulevard 1021 qui est également disponible. Le téléphone, 418-780-1021. On est partout sur vos réseaux sociaux. Et dès que vous quittez la voiture ou même pendant que vous êtes dans le char, là, c'est rendu qu'on se connecte rapidement, ces petites bébêtes-là. L'application Boulevard 102.1, où vous allez tout retrouver, les entrevues, les bons et les moins bons moments de la journée, les petits stops que j'ai le privilège et le bonheur de faire avec la gang du matin. D'ailleurs, on va revenir sur le petit stop de ce matin dans les prochaines minutes. Mais d'abord, un coup d'œil à la circulation Audrey.
Henri IV-Sud, auteur des Quatre Bourgeois, la voie de gauche qui est bloquée, une panne qui est toujours présente. Si vous êtes sur la capitale Est, auteur Robert Bourassa, c'est légèrement au ralenti. Ouest, un peu plus intense à la hauteur de Laurentienne. L'entrée des ponts, direction Sud, c'est pas terminé. Et pour la 20, direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata, surtout autre chose. 88-971-1021 texto.
Ce matin, dans le Pit Stop avec Jeff, avec Max, avec Marceau, on a parlé évidemment du Super Bowl, on a parlé de la mi-temps. Mais Marceau m'a fait entendre aussi un échange qui a été fait à la radio de Radio-Canada en fin de semaine, où une femme s'exprime sur les hommes en général. Puis ce matin, bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ça faisait un petit peu partie de saucisse. Fait que j'étais curieux d'avoir, mettons, le point de vue sur ces propos-là des deux demoiselles d'honneur de Gravel dans le retour. Audrey, vous avez écouté ça tantôt. Puis peut-être juste rappeler qui a tenu les propos, dans quel contexte, puis je vais le faire entendre aux gens.
C'est Elisabeth Lemay, en fait, qui était de passage dans l'émission de l'huile sur le feu avec Rebecca McLennan. C'était vendredi soir, de mémoire, cette émission-là. Okay. Toujours le vendredi soir, en fait. Puis elle a écrit un texte où son but de base, en livrant ce texte-là en ondes, c'était de dire qu'on s'inquiète plus du malheur des hommes que de la mort des femmes.
Puis c'est qui, elle?
Elle, c'est une autrice, en fait.
OK. C'est pas une animatrice de radio.
Non. C'est une autrice. Engagée. Elle est engagée. Elle aime polariser sur ses réseaux sociaux. Puis elle a décidé qu'elle faisait un texte sur le fait qu'on était mieux de laisser les hommes seuls, dans le fond.
Ça vous a beaucoup fait réagir ce matin. J'ai hâte de vous entendre, Véro et Audrey. Voici les propos en question.
Permettez-moi de vous dire mon hot take de la journée. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes, gars. Et depuis le 1er janvier, on compte maintenant 6 féminicides. Ouais. Et pourtant, le narratif des médias continue de parler du malheur des hommes bien plus encore que notre mort. C'est fini l'époque de l'homme pourvoyeur. Désormais, tout ce qu'on leur demande, c'est de subvenir aux tâches ménagères, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'être engagé dans la lutte pour nos droits humains comme vous l'êtes pour toutes les autres causes sociales. Mmh. On vous demande de pas mettre notre vie en danger, finalement, de pas nuire à notre émancipation, de nous porter vers le haut au lieu de nous tirer vers le bas. Et peut-être que juste comme ça, mine de rien, on en aurait terminé la crise de la solitude masculine.
Bon...
Par où commencer?
Il y a une chose, moi, qui m'a frappée, mis à part les propos d'Elisabeth Lemay, là, c'est que Rebecca McKinnon, c'est son émission de l'huile sur le feu, puis elle laisse ça aller, puis elle participe comme si c'était bien normal comme propos, elle ne challenge pas, puis moi, ça me fascine. Là. Mm. On a une responsabilité, à mon sens, comme média. C'est Radio-Canada en passant, là. Ouais. On paye pour ça, on pourrait dire.
En même temps, là, je vais me faire l'avocat de la diablesse, si tu permets. Elle avait tellement de misère à lire son texte, puis la seule fois qu'elle l'a fait sortir de son texte, elle avait tellement de l'air déstabilisée que ça a peut-être été un mauvais réflexe de dire « Le meilleur damage control que je peux faire, c'est de pas challenger ce qu'elle dit. » Elle va finir de lire son texte en passant... En ATM, moi, on m'aurait recalé, là.
T'aurais sûrement pas passé, comme ça. Mais en même temps, ça vaut pas la peine de... J'ai même pas envie de commenter la façon dont elle le fait. J'ai envie, avant qu'on commente, par exemple, ce qu'on en pense, Véro et moi, de vous lire peut-être ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux.
Parce que la chronique a été retirée.
La chronique a été retirée parce que ça suscitait énormément, évidemment, de commentaires
négatifs. Ou encore,
négatifs.
On se rend compte que ça avait pas de bon sens.
Ça avait pas de bon sens.
Il y a des gens à Radio-Canada qui se sont excusés pour pas mal moins que ça dans un contexte humoristique, je pense, dans les dernières semaines.
Donc, elle a écrit dans quelques stories, il y a une quarantaine de minutes là, de ce qu'on peut voir. Le Radio-Canada et de l'huile sur le feu ont retiré ma chronique après les commentaires haineux des hommes. J'ai pas de mots, je suis tellement hors de moi. Radio-Canada et de l'huile sur le feu auraient pu juste retirer les commentaires à caractère haineux. Ils ont décidé plutôt de retirer ma chronique de leur page. Honte à vous. Elle dit « Inutile de vous dire que c'était ma dernière avec vous. La gauche et les féministes ne sont pas les bienvenus sur votre plateau. Vous avez croulé sous la pression d'hommes sexistes en retirant ma chronique féministe. C'est terminé pour moi, Radio-Canada. La première chose, si c'est ça le féministe, je ne suis définitivement pas féministe. »
Moi, être de gauche actuellement, je grimperais dans les rideaux d'être associée à cette fille-là. D'abord, de mélanger solitude et isolement, je trouve que c'est une grave erreur de jugement.
Raccourci intellectuel.
C'est un très grand raccourci intellectuel. Si on veut parler des personnes qui s'isolent et qui dérapent, ça n'a pas de sexe. Il y a des exemples de tous bords, tous côtés. Je comprends qu'elle tente de faire un lien avec les féminicides, mais elle fait de drôles d'images. De parler qu'elle, quand elle est seule, elle écoute un film de Julia Roberts, ça, c'est pas de l'isolement. C'est de la solitude. Puis la solitude, t'as pas nécessairement un mal-être qui vient avec.
Non, des fois, c'est du
bonheur. T'es pas nécessairement coupé de la société. Il y a des gars qui vivent très bien avec la solitude. Il y a des gars qui vivent moins bien que la solitude, il y a des femmes.
C'est un de mes fantasmes actuellement de me retrouver en situation de solitude, ne serait-ce que 5 minutes pour aller aux toilettes.
Elle dit « La crise de la solitude masculine, c'est juste une autre manière de dire que les femmes se libèrent. »
Ça a tellement aucun rapport. Quand elle s'est mise à parler des poupées robots dont ils ferment le son, connaissez-vous un vibrateur qui parle, vous autres?
Non, mais t'as tellement raison. Puis moi, c'est le parallèle de les hommes nous préfèrent quand on se tait, genre, puis qu'on obéit. Voyons, c'est bol.
C'est tellement des gros.
Toi, t'es rendu drôle depuis que t'es en amour. Là. Non,
c'est
vrai que
t'as un sens de
l'humour. Je suis la personne la plus drôle de la province.
Ouais, t'es...
J'ai pas besoin d'écrire de texte.
T'es quasiment rendu là.
Ce que je me suis rendu compte en écoutant cet extrait-là, c'est à quel point les extrêmes, c'est rendu que ça me rend inconfortable, voire agressive.
En fait, les extrêmes se nourrissent les uns les autres, puis il n'existe plus de milieu. Il existe
On recule avec ça.
Tu sais, d'entendre ça, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis du feu sur probablement des hommes qui sont déjà remplis de préjugés envers les femmes, puis que peut-être qu'un jour dans leur vie, ils vont déraper, peut-être qu'ils déraperont pas.
C'est peut-être pas à cause, là.
Mais c'est de nourrir ça.
Le parallèle que j'ai fait ce matin dans le Pit Stop, c'est un parallèle avec Donald Trump. Donald Trump, les gens de gauche l'haïssent. Pourquoi? Parce qu'il fait des raccourcis intellectuels, parce qu'il dit des généralités dangereuses, parce que le gars
il adapte son discours.
Veut diviser pour faire fâcher ceux qui pensent pas comme lui. Donald Trump fait exactement la même chose que ce madame-là. C'est des propos imbécile, réducteur. Tu sais, quand Donald Trump parle des immigrants, il en parle comment? Ah, il y a un immigrant qui est un violeur, tous les immigrants sont des violeurs. Il y a un immigrant qui est un criminel, tous les immigrants sont des criminels. Tu sais, c'est tout le temps des généralités comme ça.
Puis une généralité de gauche n'a pas plus de valeur qu'une généralité de droite.
C'est un peu là que j'essaye d'aller avec mon parallèle. Puis je faisais la même chose quand elle était en politique. Là. Je trouvais que Catherine Dorion, c'était la Donald Trump de la gauche parce qu'elle faisait ce genre de choses-là.
Là, c'était moins grossier, mais elle voulait faire parler.
Beaucoup de confrontations juste pour brasser de la marde. Puis moi, je me dis, ben, si c'est pas bon pour la droite, c'est pas bon pour la gauche non plus. J'ai comme hâte qu'on revienne dans le milieu.
Mais j'en pense pas. Ça se peut. Moi, j'ai l'impression qu'on... Ça va toujours... Tu sais, ironiquement, là, on entend ça puis on réagit à l'autre extrême, justement. Moi, ce matin...
Je suis pas fâché, moi, en passant. Hein.
Ah, moi, je suis pas fâché. Je suis inconfortable.
Je sais qu'Yann était outré, mais moi, je suis comme rendu à une étape. Ben, écoute, tu veux crier que 2 plus 2, ça fait 5, puis tu veux le crier plus fort que les autres. Vas-y avec ça, là.
Mais après ça, plaît-toi pas que t'es cancel, là.
Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de cela aussi.
Mais j'ai comme pas aimé la réduction de l'homme, le parallèle avec les féminicides, la généralisation. Puis ce que je trouve triste là-dedans, c'est quand on parle de l'isolement de l'homme en ce moment, on parle de santé
solitude,
mentale.
Exact.
Ouais.
Mais dans ce genre de discours-là, il y a une personne qui s'isole beaucoup, là.
Ah, mais elle, clairement, il y a une chambre d'écho énorme.
Pour arriver à ces conclusions-là, il faut que tu t'isoles beaucoup de la réalité de 99% du monde, là, hommes et femmes.
Puis c'est un discours qui me donne pas envie personnellement d'être solidaire aux femmes qui se décrivent comme féministes dans
ça,
des discours comme ceux-là.
Beaucoup de femmes qui nous écrivent en passant au moment où on se parle.
Je pensais qu'on s'était replacés parce qu'à une certaine époque, être féministe, c'est être justement très revendicatrice et être très... les hommes, c'est de la merde. Mm. Les femmes, on mérite notre place.
Puis moi, je me reconnais tellement pas là-dedans.
Je pense que les hommes et les femmes doivent être des alliés dans tout. Puis que l'égalité n'est pas encore tout à fait là dans certains éléments, mais encore là, je pense qu'on a tous travaillé ensemble pour amener ça, puis d'essayer de ramener des vieux débats, des vieux enjeux. Puis elle passe à côté des problèmes par rapport au féminicide. Mm-hmm. Notre système de justice est en pleine errance. Socialement, puis on s'en est parlé beaucoup dans les dernières semaines, là, sur toutes les émissions de l'antenne, là, de dire « Hey, c'est le temps qu'on parle aux gars en leur disant c'est pas normal d'avoir des comportements qui peuvent mener à ça. Mm-hmm. » Je pense que c'est de même beaucoup plus que de pointer du doigt l'homme en général, puis de se le mettre à dos. Puis moi, une fille qui se drape dans « Je suis une féministe, puis pas vous autres. » Urk! Je peux-tu être féministe à ma manière? Je veux pas être féministe comme toi. Zéro pin bar. Zéro pin bar.
Mais ce que je trouve même plate, c'est que ça donne envie de même pas se coller, je vais appeler au mouvement.
Ouais.
Tu sais, y a pas un gars dans mon entourage que je peux coller à aucun des propos qu'elle a tenus. Puis je veux dire, j'ai deux frères, j'ai des hommes extraordinaires qui m'entourent. Puis tu sais, je pense que peut-être, oui, qu'en frais d'égalité, d'équité, on n'est peut-être pas rendu au bout du chemin encore. Je pense qu'il y a beaucoup de technicalités. Mais je pense que socialement, puis du moins, je vais parler, puis je suis peut-être vraiment chanceuse, là, mais socialement, moi, quand je regarde autour de moi, je sens une équité par rapport aux hommes qui m'entourent. Dans ma situation personnelle, je me sens pas réduite.
Je cherche encore un contexte où écraser l'autre, ça a élevé tout le monde.
Ouais.
Excusez, je vous écoutais pas, j'étais en train de m'isoler radicalement.
Oui, c'est okay. ça. Ouais, tu commentais sur ses vidéos.
Oui, oui, oui.
Tu
commentais une fille qui parle pas. J'étais en train de devenir...
Tu planifiais ton prochain meurtre, mon... c'est ça?
Mon prochain féminicide.
Non, mais sérieux, ça me
cœur. Ah,
non,
ça
a
pas...
Ça...
Mais ça me rassure de vous entendre, d'entendre votre inconfort aussi. Puis j'espère que... Je sais que je sais que Radio-Canada Montréal aime beaucoup prendre des propos de la radio de Québec pour nous faire passer pour des hosties de tweets. Peut-être prendre l'intégrale des 10 dernières minutes où deux femmes de Québec échangent là-dessus et réfléchissent là-dessus, puis peut-être le faire entendre au public de Radio-Canada comme contrepoids. Puis je trouverais ça peut-être plus productif dans un échange.
Si vous voulez quelqu'un qui fait des hot takes aussi, mettez donc quelqu'un en face qui va être capable de challenger. Parce qu'Audrey, t'as tellement un bon point, là.
Ah, mais je veux dire, c'est...
Laissez quelqu'un lire quelque chose de même.
En France, à TV, de ce que j'ai compris, c'est comme le festival de la hot take, de prendre les plus radicaux puis de les asseoir un à côté de l'autre. Fait que quand Mathieu Boccoté dit des niaiseries sur un plateau français,
il y a quelqu'un d'autre à côté.
Il y a quelqu'un pour y fermer la boîte. Puis là, les deux commencent... Moi j'haïs ça, là, pour être bien honnête avec vous autres, là, mais c'est un genre. Tu sais, si tu veux un combat d'extrême, tu peux le faire. Mais oui, ça te prend un contrepoids. Mais ça, c'est quoi le contrepoids de ce discours-là? C'est Andrew Tate? Je veux dire.
Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les extrêmes vont se nourrir entre eux autres.
Oui, puis on n'est pas là, personne. On revient-tu dans le milieu de la gang ensemble? On recommence-tu à se parler? Parce qu'on se parle pas à Québec, là. On va rien qu'avoir un bout de tramway qui va pas dans le bon sens, puis on n'aura pas de troisième lien. Faudrait peut-être apprendre de nos erreurs, là, à boquer chacun dans nos coins puis à pas se parler, là. Ou à rien que s'enguirlander puis à popper le champagne quand les affaires marchent pas, là.
Il y a quasiment une partie... Puis là, quitte à me faire tirer des roches, essayer de comprendre ce que je veux dire, mais il y a quasiment une partie de moi, la première fois que je l'ai entendu, qui a eu un peu pitié. Il y a une partie de moi qui me suis dit, mon Dieu Seigneur, je vais aller m'asseoir avec Élisabeth Lemay.
C'est lourd. C'est quoi sa chambre d'écho pour filer comme ça? C'est comme un appel à l'aide.
C'est ce qui se passe. Là. Soit elle a tenté de faire un texte humoristique puis c'était un flop monumental parce qu'on delivery de la merde.
Ouais.
Soit... Non, mais tu sais, j'essayais de comprendre. Je me disais, ouais, ça se peut pas qu'elle pense ça fondamentalement. Là. Mm-hmm. Et c'est maladroit en tabarnak. De comparer des féminicides à un isolement de l'homme, c'est un chemin
de solitude de l'homme.
Ben, c'est vrai parce qu'elle n'utilise pas les bons propos. Mais je c'est ça. Fait que non, en fait, tu dis je suis pas fâchée, je suis peut-être un peu.
T'as l'air fâchée.
Je suis pas fâchée, je suis irritée.
Je trouve que ça fait mal aux filles.
Mais c'est ça.
Ça fait mal aux féminismes.
Je t'insulte, en fait.
Ça fait mal à toutes celles qui essaient de pointer du doigt des gestes ou des attitudes qui sont pas acceptables, parfois de la part d'hommes et parfois de la part de femmes.
Parce que l'égoïstement, j'ai l'impression que si le moindrement j'ai des propos plus féministe dans ma vie, ben on va me mettre dans un panier,
ouais,
dans le même qu'Élisabeth Lemay.
Je veux pas être là.
Puis je veux pas être dans le même panier qu'elle, tu comprends?
Très bien.
Fait que je pense que mon côté irrité vient beaucoup, beaucoup de là.
Puis je serais très curieuse qu'à un moment donné, on s'attarde sur les femmes qui s'isolent.
Ah,
de savoir à quel point les problèmes qui peuvent venir avec peuvent être terriblement graves aussi.
J'ai beaucoup aimé ta nuance entre isolement puis solitude, parce que tu vas pas du tout dans le même track.
Tu vas chercher les définitions, c'est elle qui est dans le champ.
Paul Lévesque nous en a parlé.
C'est vrai. Ouais.
Merci mademoiselle, parce que c'est ça, ce matin, on était rien que des gars autour de la table pour parler de ça, puis je trouvais que ça faisait un petit peu, c'est ça, partie de saucisse. Là.
Ben oui, c'est parce que tu peux facilement être insulté puis fâché comme homme aussi, puis je le comprends absolument. Mais non, mais ça fait énormément jaser, écoute, puis il y a beaucoup de gens qui posent la question, c'est les publications des réseaux sociaux qui ont été retirées, c'est-à-dire que l'épisode est encore disponible sur le site de Radio-Canada, là, ce qui pour moi est problématique aussi, mais rendu la liberté d'expression,
exact.
Ouais. Mais j'espère que si ça vous choque d'entendre un discours comme ça, j'espère que ça vous choque égal des deux bords. Ça, c'est l'autre réflexion que je voulais amener, là. Tu sais, quand tu as un président à Maison-Blanche qui débite des conneries justement en faisant des raccourcis intellectuels puis en étant ouvertement raciste, misogyne, en associant tout ce qui est immigrant à la criminalité puis à tous les problèmes des États-Unis. J'espère que le discours de l'enflure verbale pour diviser, j'espère que ça vous choque égal des deux bords.
En fait, moi, je te le dis. C'est un cercle, c'est partout. Ouais, là.
Moi, ça me rend triste. Des égales des deux bords puis de voir que tu réponds à de l'extrême d'un bord en faisant de l'extrémisme de l'autre bord. Moi, je me sens pas bien là-dedans. J'ai fait des choix de carrière par rapport à ça parce que j'étais plus bien sur une tribune qui faisait quasiment rien que ça, là. à journée longue. Ouais. Moi, je me suis jamais reconnu là-dedans. Je suis pas en guerre contre personne. Je pense pas que j'ai une idée qui est meilleure que celle de l'autre. À cette heure, j'essaie de changer. Merci aux filles, m'aident beaucoup. Particulièrement Audrey, qui a une sensibilité que j'aimerais avoir, là, mais je suis rendu
vieux.
Moi, j'ai
juste un très grand sens de l'humour.
Oui, toi, t'es rendu drôle en tabarnane.
C'est
ouais,
rendu, t'es en train de me voler ma job, là.
C'est rendu, ouais, c'est rendu fucké, ce table.
C'est ça. On hey, c'est moi qui m'insure. Je vais refaire des jokes.
Ben oui, c'est quoi qui se passe ici, là? 16h41. On va s'arrêter pas longtemps, puis on revient. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Merci d'être là.
Pour joindre l'équipe.
Il est 16h49, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. 418-971-1021 pour nous rejoindre sur les routes Audrey.
Il y a encore des problèmes si vous êtes sur la capitale, direction Est, quoique ça se libère tranquillement pas vite. Ouest, c'est entre Henri-Bourassa et Laurentienne. Henri IV Sud, à partir de Versant Nord, ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts, surtout du pont Pierre-Laporte. Et pour la 20, direction Ouest, c'est là où c'est le pire, là, sur la rive sud, entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, c'est le 418-971-1021 texto.
Je sais pas si elle travaille encore à essayer de trouver le côté positif des histoires horribles qu'elle couvre au palais de justice. Elle a tout un défi aujourd'hui. Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil. Salut, Judith.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va. Des histoires d'horreur au palais de justice concernant... nous autres, on en a parlé vendredi.
C'était une grosse journée vendredi.
Ouais. Ouais. Une journée assez élevée.
Chargée en émotion.
Peut-être commencer avec le père qui a caché des caméras dans sa maison pour surveiller la santé mentale de ses ados.
Oui, c'est un père dans la quarantaine qui avait caché des caméras et des micros là, sur des haut-parleurs dans la chambre de ses enfants et celle de sa conjointe.
Combien de temps?
Plusieurs années. Puis, à un moment donné, les enfants avaient trouvé les micros, les haut-parleurs, puis ils les avaient retirés en sachant pas trop c'était quoi, puis lui, il les avait même remis. Donc, il y avait vraiment un contrôle là, distant qui était exercé parce qu'il entendait tout et il captait tout, puis il classait ça dans des fichiers sur son ordinateur, dans son bureau, même que ses propres caméras l'ont vu classer ces vidéos-là sur son ordinateur.
Oh, mon Dieu!
Parce qu'après, évidemment, à un moment donné, les enfants se sont rendus compte qu'ils savaient des choses qui avaient pourtant été dites derrière porte close.
C'était quoi le contexte ou c'était quoi le problème de cet individu-là à vouloir surveiller tout le monde dans sa maison?
Bien, c'est vraiment un dossier profond de contrôle et d'abus de confiance, là. Lui, quand il a été arrêté, il s'est justifié rapidement en disant « Oui, je les ai mis, les caméras, là, il n'y avait pas de question de s'il les avait mis ou non. » Lui disait qu'il voulait surveiller la santé mentale de ses enfants parce qu'il disait qu'ils allaient plus ou moins bien, que l'adolescence était difficile, puis qu'il y avait peut-être des pensées noires. Donc, il voulait garder un peu le contrôle là-dessus pour les protéger. Mm-hmm. C'était sa justification. Puis pour la chambre de la conjointe, bien, il voulait vérifier si elle ne le trompait pas. Donc, il y avait... Lui, c'était pour ça que c'était légitime pour lui de mettre ces caméras-là dans la maison là, familiale. Puis, il faut dire qu'il y a eu plein de visites entre-temps. Donc, il y a des membres de la famille élargie qui ont été aussi captés par ces caméras-là. Donc, c'est vraiment une famille là, qui a vécu un... Bref, qui...
C'est une trahison.
C'est une trahison tellement énorme qui... Puis ça va au-delà de ça, là, parce que oui, lui, il a ramassé plusieurs accusations de pornographie juvénile parce qu'évidemment, les adolescents étaient nus et faisaient des choses que tu fais tout seul chez vous.
Ben oui.
Dans ta chambre, puis c'est correct.
Fait tu poses pas de questions.
Lui,
hein?
Il classait même ces vidéos-là de type pornographie juvénile dans un dossier spécial. Fait que, puis ce qui était particulier avec ce dossier-là, c'est que lui ne reconnaît pas encore à ce jour que c'est mal et qu'il y a une certaine déviance, une problématique par rapport à ça.
Est-ce que c'est un gars qui peut se ramasser avec une étiquette de délinquant dangereux à partir du moment où il voit pas le mal dans ce qu'il a fait?
En fait, c'est que c'est un peu du déni. Lui va justifier toujours d'un côté, mais les professionnels savent que c'est pas vrai, ça tient pas la route. Et la juge l'a bien expliqué parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison, ce qui est quand même énorme. Puis elle l'a dit, elle dit « Moi, je crois pas à vos explications, ça ne fait pas de sens. Et pour moi, vous avez une problématique. Et tant aussi longtemps que vous n'admettez pas la problématique, on pourra pas vous soigner et votre risque de récidive va être élevé. » Et ben ça joue sur la peine, puis ça joue sur la libération conditionnelle.
Est-ce que les membres de la famille ont témoigné dans un procès comme celui-là?
Ils ont témoigné parce que lui avait plaidé coupable. Comme je vous dis, il a toujours reconnu qu'ils avaient installé ces caméras-là. Ouais. Ils ont témoigné lorsqu'ils ont plaidé pour la peine.
Okay.
Aux représentations sur sentence qu'on appelle. Puis c'est vraiment des témoignages déchirants parce que c'est des gens qui ne referont plus jamais confiance, qui se sont faites, qui ont été trahis par la personne la plus proche d'eux.
C'est ton intimité puis ta vulnérabilité.
C'est profond, là, parce que pendant plusieurs années, tout ce que tu faisais, tes faits et gestes, tout ce que tu disais était capté et écouté par cet homme-là.
Hey, mon Dieu Seigneur, moi je repense à tout ce que j'ai fait dans ma chambre quand j'étais adolescent.
Ben voilà.
Pas sûr que j'aimerais ça que mes parents aient le tape. Ben.
Puis c'est correct, c'est fait pour que tu fasses tes affaires.
Ben là, c'est ça, écoute.
Puis la juge l'a dit, puis la juge l'a bien expliqué, là, c'était tellement intrusif que les peines ont été consécutives pour chaque personne.
Au lieu de
parce
faire
que
un lot.
Souvent, on parle de peine concurrente parce
là, on
que
est allé on est allé plus loin qu'on pouvait, dans le fond.
Mais la juge était comme, je peux pas faire concurrence parce qu'il y a des gens qui ont souffert de façon différente et tout. Donc, on a c'était vraiment... La peine de 5 ans était parce que la poursuite demandait 6. La poursuite va toujours un petit peu plus haut. Fait qu'elle a s'est quasiment collée à la suggestion de la poursuite. Lui, il voulait faire des travaux communautaires et un an de prison à la peine minimale.
Une famille violée dans son intimité pendant plusieurs années. Un gars qui ne connaît pas ses torts, le
ça
rayon...
Ça fait mal. Puis je pense que ça fait d'autant plus mal que la personne, à ce jour, croit qu'elle était légitime dans ses actions. Mmh. Puis c'est ce que j'ai ressenti là, dans la salle parce que toute la famille était là. Ils se serraient les coudes et traversent un peu ça ensemble.
Tout le monde est du même bord, là.
Oui, oui, sauf lui, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est, pour eux, c'est, les blessures sont énormes et ils espèrent guérir, là, mais ça va prendre beaucoup de temps là, pour refaire confiance à quelqu'un.
Mon Dieu. L'autre histoire qui a retenu l'attention, un homme qui a frappé des enfants avec un tisonnier, à coups de tisonnier.
Ouais. Tu sais, quand je vous dis qu'il s'en passe des affaires dans une salle d'audience, des fois, là, puis que c'est lourd, puis que c'est profond, puis qu'il n'y a personne qui va être là, là, bien ça, c'était ces moments-là. Il n'y avait personne qui voulait être là au palais de justice pour gérer ce dossier-là. Et de tous les côtés et de tous les bords. Puis c'était tough parce qu'on parle de gestes qui sont incompréhensibles. Mmh. Fait sur des jeunes enfants. Là. Puis
très bas.
Jeunes
en fait, enfants, peu importe l'enfant, mais là, c'est très bas âge. Là.
C'est très bas âge. C'est des gens, des êtres, des minuscules et sans défense et vulnérables. Et c'était très, très lourd.
Peux-tu rappeler ce qui s'est passé, Judith?
C'est en octobre 2023, c'est Alexis Lavoie-Gilbert qui n'allait pas bien, là, qui avait des problèmes psychologiques quelconques, puis qui se soignait, mais qui a été jugé apte, en passant, à subir les procédures. Puis il y a, sous le coup de la colère, puis on peut moyennement dire le contexte, étant donné qu'il y a une ordonnance qui protège ces enfants-là, sous le coup de la colère, parce que ça a été dit, il a frappé les enfants. Il y en avait deux, il a commencé à frapper l'un d'eux, puis ça s'est mis à crier, évidemment, parce que même s'ils sont jeunes, ça crie. Puis une personne qui était dans la maison qui est venue intervenir pendant qu'il frappait le deuxième enfant. Et donc, le premier a des conséquences plus importantes que le deuxième.
Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le plus dur quand on exprime ça ou quand on montre la preuve au palais de justice? C'est-tu parce qu'il y a eu des photos? C'est-tu les descriptions?
C'est un plaidoyer de culpabilité, parce que là, cet homme-là a eu la décence d'esprit d'offrir à tout le monde un règlement pour éviter un procès, qui aurait été des plus difficiles à faire.
Mm-hmm.
Donc, il a plaidé coupable à deux chefs de voies de fait graves au lieu de deux chefs de tentative de meurtre. Donc, on a des accusations réduites, mais ça ne change rien pour la peine. C'est 15 ans total qui va passer en dedans.
Okay.
Puis, quand ça se passe pour le plaidoyer, ben la procureure va lire un résumé des faits. Puis, le résumé est écrit, il est sur une feuille, puis elle le lit. Fait que jusque-là, ça va. Parce que oui, tu lis des choses qui ne font aucun sens, mais ça reste sur papier, puis c'est lu par la procureure qui est un petit peu détachée de ça.
Ouais.
Puis ensuite, comme je vous le dis souvent, on offre aux victimes et aux proches de témoigner sur les conséquences du crime. C'est quand la maman des enfants a pris la parole dans une longue déclaration, solide, bien ficelée.
Elle l'a fait elle-même?
Oui, elle l'a lu elle-même. Puis c'est là que ça fesse, parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est vrai. Là. Elle a le vécu. Puis c'est là que ça shake un peu, parce que tu... Quand tu dis qu'il a fait ça, c'est court, puis tu le sais, OK, oui, c'est épouvantable. Mais là, après, tu regardes à quel point les conséquences sont énormes. Puis là, on parle des blessures des enfants. Oui, ils avaient des traumatismes crâniens parce qu'ils ont été frappés à la tête.
Il y a des blessures physiques, mais c'est au-delà de ça.
Puis après, c'est quand on dit qu'ils ont aussi des fractures sur les doigts et sur les bras parce qu'ils ont essayé de se protéger. Mais là, ça te met... Là, tu commences à avoir assez de contenu pour t'imaginer la scène. Puis cette maman-là, elle l'a dit elle-même, elle a dit « Je suis pas maman, je suis maman gestionnaire de trauma. Mes enfants sont plus capables d'être seuls, mes enfants souffrent de ça, s'en souviennent. Il y a une mémoire consciente parce qu'ils étaient jeunes, mais aussi une mémoire traumatique qui prend le dessus. Là. Les experts pourraient mieux l'expliquer que moi, mais puis c'est dur encore à ce jour d'évaluer les séquelles à long terme de ces enfants-là. Fait que c'est tout le temps, t'es tout le temps sur tes gardes, t'es tout le temps en train d'analyser est-ce que c'est mon enfant, mon vrai, ou c'est mon enfant qui réagit comme ça à cause des séquelles vécues. C'était vraiment tough. Puis quand t'es dans la salle, puis tout le monde trouve ça tough, il y a comme personne qui
est de glace. Hein?
Ben, tu sais, l'avocat de la défense, il est pas bien, il file pas parce qu'il est pas insensible à ça, même s'il défend l'accusé.
Ça doit être lourd en tabarnouche dans cette salle-là. Là.
Ben oui, c'est lourd. Puis la juge. La juge, elle a cassé en s'adressant à la maman parce que, tu sais, elle aussi, elle est mère, là. Tout le monde est des humains là-dedans. Puis elle a voulu lui dire, vous êtes plus qu'une maman gestionnaire de trauma. Mm. Je vous souhaite, avec tout mon être, que ça aille mieux pour la suite. Et on a souligné, évidemment, l'aplomb et le courage de cette femme-là, qui avait d'ailleurs fait installer des paravents pour ne pas qu'elle puisse regarder l'accusé pendant qu'elle est.
Puis lui, toi, t'avais-tu... Est-ce que tu le voyais
aussi? Personne ne l'a vu, en fait.
OK, c'est ça, c'est vraiment
devant lui. Il était encadré de paravent, comme, étant donné qu'elle ne doit pas le voir, okay. Ça fait que nous, on l'a tous pas vu.
Nous autres, vendredi après-midi, on a fait une chronique bière. Le vendredi, souvent, on est plus léger. On s'est amusé avec Richard Martineau. Puis je pense que dans bien des jobs, un vendredi après-midi, on est déjà un peu à 50 % en mode week-end. Mm-hmm. Ton vendredi après-midi, ça a été d'entendre ces causes-là. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas traîner ça toute la fin de semaine à la maison?
Bien, on en jase avec les personnes qui comprennent. C'est les collègues du palais de justice, c'est aussi les collègues du soleil. Puis on ferme les livres, puis on prend un petit verre.
Ouf!
Mais c'est le genre d'histoire qui te garde longtemps, puis on en parlait encore ce matin au bureau.
Ouais.
Puis on en parle aussi avec les avocats qui sont là parce que tout le monde comprend un petit peu, mais c'est...
Pas grand c'est rayon de soleil là-dedans, là.
Non, puis c'est correct de... Tu sais, je le dis tout le temps, c'est correct de dire que ça s'est passé, puis il faut pas faire comme si ça existe pas, ces choses-là, là, je vous le dis, là, sinon c'est mettre des lunettes roses. Ces choses-là arrivent. Maintenant, on doit les traiter. Il faut qu'il y ait des conséquences, puis il faut qu'on pèse sur le crayon pour dire ça, là, si vous faites ça, ça va être sévèrement puni. Puis c'est tout ce que le tribunal peut faire, là, envoyer un message de dénonciation et de dissuasion le plus puissant possible. Regardez tout ce que ça fait, là, si vous agissez comme ça. Voici les conséquences. Elles sont graves. Pensez-y deux fois.
Judith, encore un gros merci pour ta belle humanité, ta grande sensibilité quand tu nous racontes ces histoires-là. Tu surveilles quoi cette semaine au Palais de justice? T'es-tu sur un dossier en particulier?
Oui, c'est le procès de Régent Bacon, celui qui a personnifié le Père Noël durant plusieurs années.
Oh! Dans le petit Champlain en bas!
C'est commencé pour 6 semaines. Le jury a été sélectionné aujourd'hui. Vous savez que j'adore la sélection de jury.
Ouais.
Ah ouais.
J'adore ça. C'est tous des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont venir faire, qui débarquent au Palais de justice.
Mais là, ils le demandent.
Un peu apeuré, un peu.
Il lui demande quoi comme question? Croyez-vous au Père Noël? Ouais, c'est ça.
Non, c'est tout le temps une question générale pour savoir si ça va, ils vont être impartiaux ou non pour ce genre de dossier. Et là, on parle d'un homme qui est accusé d'agression sexuelle et de plusieurs chefs de proxénétisme.
Lui, à base, c'est agression sexuelle, puis c'est au fil de l'enquête. C'est quoi? C'est des gens qui ont porté plainte, puis on s'est rendu compte que c'était plus grave?
En fait... Il a été... mon Dieu, ça commence à faire longtemps parce que ça traîne, ce dossier-là. Là.
Oui, ça me semble. Hein?
Oui, le procès était censé être tenu l'an dernier. Fait que là, on a eu un an de report. Il y a des victimes qui sont identifiées et il est aussi accusé d'agression sexuelle sur des victimes non identifiées. Okay. Donc, ça dit ce que ça dit. Là, j'en parlerai pas trop pour pas contaminer le jury, mais tout ça commence officiellement jeudi. Il y a des requêtes à trancher d'ici là, et jeudi, on va commencer à entendre la preuve avec la déclaration d'ouverture, et à ce moment-là, on en saura davantage et je pourrai parler des détails de l'enquête.
Merci beaucoup, Judith.
Merci à vous.
Si ça peut contribuer au procès, j'ai une photo de mes deux enfants avec le Père Noël en question.
Non, t'es-tu sérieux?
Très sérieux.
Ça avait été sélectionné pour le jury t'aurais peut-être pas été impartial, toi. Justement.
Ouais, c'est ça. Non, c'est, fait que c'est ça que j'aurais utilisé pour pas y aller, parce que moi, je te l'ai déjà dit, je veux pas être sur un jury.
Sinon, je te donnerai jamais de trucs pour ça.
C'est
ton devoir de citoyen.
Mon devoir de citoyen d'aller m'ostiner avec 11 autres personnes.
Ce serait excellent.
Hey, que je suis pas sûr. Je pense que je serais horrible. j'ai trop de préjugés, je pense. Puis j'ai pas beaucoup de foi en l'humanité en général. Puis encore une fois, aujourd'hui, ça a pas aidé beaucoup. Hey, merci, Judith.
Merci.
Du fond du cœur. Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. Il est 17h04. On s'arrête. On revient.